En 2013, Jean-Michel Djian rencontrait Michel Rocard. Ce soir, gouverner avec Mitterrand.
Michel Rocard, quand vous êtes aux manettes comme Premier ministre, c'est aussi l'époque où le mur de Berlin, on est en 1989, tombe. Est-ce que le Premier ministre que vous êtes avait conscience que une nouvelle période de l'histoire s'ouvrait et que vous étiez peut-être à un moment décisif où il fallait peut-être aussi imaginer d'autres perspectives politiques, d'autres manières de gouverner le monde à l'époque? Est-ce que vous étiez en capacité de prendre l'événement à la mesure de ce qu'il a été?
Je ne sais pas ce que veut dire capacité là-dessus, parce que le Premier ministre de France, plus encore que le président, et par la marche des services et par l'organisation générale du pays, l'homme le mieux informé de France, de tout travail des services secrets, ce qui remonte à l'Élysée et trié à Matignon. Ce travail d'information, il est gigantesque. Et il se fait à Matignon. Toutes affaires. La capacité de capter, d'analyser, d'en savoir plus que ce qui passe dans la presse, elle est totale. Je n'étais pas sans culture internationale, mais il y a un article dans la Constitution qui dit que le président de la République négocie et conclut les traités. Ce qui en fait le charge spécifiquement de la politique étrangère. Le ministre des Affaires étrangères en France est un adjoint discret du président de la République en exercice de par l'ordre constitutionnel. Aucun des présidents de la République, et surtout pas Mitterrand, n'a voulu déroger avec cette affaire. Et donc j'étais isolé de toute politique étrangère. Il me restait la sécurité sociale, le budget, les grèves, le chômage, tout ce que vous vouliez, même l'orthographe. Les dom-toms quand même, la Nouvelle-Calédonie, j'ai beaucoup travaillé sur les dom-toms. Pas de politique étrangère. Je ne suis même pas associé aux réunions de collectes de l'information la plus récente ou d'échanges sur les d'informations reçues, de conversations avec des dirigeants étrangers. Ça se passe entre le président, le ministre des Affaires étrangères, quelques ambassadeurs à l'occasion. Je n'y suis pas. Reste que nous vibrons tous à ce rythme, et assez vite, on va découvrir, il va d'ailleurs se découvrir lui-même, un président de la République parfaitement intelligent, comprenant tout. François Mitterrand, c'est une intelligence supérieure, quand même. Mais un peu effrayé. Et il nous le dit en Conseil des ministres. Dans ces tirades un peu longues et superbes par la langue et par la densité immense de culture historique qui venait dedans, il craint beaucoup l'accélération. Il trouve que ce qui se fait vite produit des déséquilibres et que le déséquilibre, c'est le synonyme de danger en politique. Il craint l'instabilité beaucoup. Ça va se voir sous deux signes. Le premier est un incroyable voyage en Allemagne de l'Est. Nous devons être en 1989 encore, ou peut-être déjà 90, j'ai un petit peu oublié. Ce voyage en Allemagne de l'Est est pour François Mitterrand une tentative pour ralentir la fougue d'Helmut Kohl, pour demander qu'on prenne son temps et pour dire à l'Allemagne de l'Est: bien sûr, il faut que vous reveniez dans la civilisation, etc. Nous prendrons garde que vos droits, votre existence, votre historicité ne soient pas bafoués. Il y a quelque chose de ce genre qui sonnait faux et qui n'était pas juste. Et puis il y a pire, après mon départ comme Premier ministre, quand il y a en Russie, qui n'est plus soviétique puisque Eltsine a pris la présidence de la Fédération de Russie et a cassé le cadre de l'Union soviétique, il y a une manière de putsch où quelques anciens généraux, staliniens, communistes, font putsch contre Eltsine. Et on a depuis la France le signe que le président de la République française écoute ça avec un intérêt curieux et leur concède un peu d'autorité verbale, je n'ose pas dire plus. Sur le premier épisode, j'étais encore Premier ministre, j'étais très opposé, je n'ai pas pu le dire. Sur le second, je suis en balade, j'apprends ça quand je suis en vacances en Irlande. Je suis même presque scandalisé. Mais dans les deux cas, J'ai appris depuis que la totalité de l'administration, la totalité des services du Quai d'Orsay était hostile à ces deux initiatives. Que l'État français, dans son organisation, hors le président, fonctionnait de manière à appuyer la convergence. Et d'ailleurs, le fait de l'appuyer intelligemment, sans chercher le moins du monde à afficher la moindre méfiance ou inquiétude, eût été le bon moyen. Car quelle était la panique ? La panique, c'était que l'Allemagne, âpre à reconquérir son unité, n'aille demander la permission à une Russie toujours soviétique, même conduite par Mikhail Gorbatchev, premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Que l'Allemagne aille rechercher l'autorisation de faire son unité au prix de son départ de l'OTAN et de sa démilitarisation. Et ça faisait une peur panique parce que personne ne savait comment l'Union soviétique allait tourner. Elle était dans un état tel qu'un surgissement nationaliste autoritaire pour compenser la crise économique donc, qu'on voyait y sévir était possible et à craindre. Et c'est pour ça que, notamment François Mitterrand, mais pas seul, il était d'accord avec Madame Thatcher là-dessus, a poussé au freinage. Mais ce freinage s'est rendu trop visible et l'intégralité des services du Quai d'Orsay, et je crois bien avec en secret Roland Dumas, dont on ne peut pas le dire non plus, savait que c'était une erreur et qu'il valait mieux accompagner le mouvement. Moi, pour ma part, je n'en ai jamais douté. Mais je ne l'ai pas dit.
Vous n'aviez aucune raison ni aucun moment où cette conversation fut possible avec François Mitterrand, puisque vous étiez au cœur de l'action tout de même. Cette idée de réunification, cette idée d'accompagner un mouvement qui paraissait aller de soi.
Mitterrand était un peu le genre d'homme avec qui la formation d'un désaccord confinait au crime de lèse-majesté. Ma survie comme Premier ministre dépendait de sa seule décision. Or, j'avais quantité de choses commencées que je voulais continuer. Il faut du temps pour l'efficacité de l'art de gouverner. J'ai préservé mon temps beaucoup. J'ai même eu l'accusation de l'avoir trop fait. C'est pas à moi de juger. Tu vois, pas sûr que ce soit vrai. Mais en tout cas, je ne cherchais pas à précipiter ma chute en affichant un désaccord massif sur un point aussi central de la politique française.
Vous qui êtes un internationaliste, justement.
Depuis toujours.
Depuis toujours. On imagine mal que vous soyez à l'écart de ce champ de grands événements internationaux, surtout quand il faut penser l'avenir du pays, penser la mondialisation qui allait arriver à grande vitesse, qui était déjà en chantier. J'imagine que pour vous, c'était une source de frustration.
Vous pouvez imaginer mal, il faut pourtant vous y faire, c'était le cas. On n'en est plus à la frustration à ce niveau-là. Ma mise à l'écart en politique étrangère, c'était la règle du jeu. Je la connaissais quand j'ai été nommé.
Certes, elle est constitutionnelle, mais toutefois.
Elle est constitutionnelle et mitrandienne. Bon, peu importe. En tout cas, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et le mot de frustration, appliqué à cette situation particulière, n'est dépourvu de sens. Simplement, oui, j'étais en colère de ne pas avoir les moyens de peser même Premier ministre, sur des décisions que je désapprouvais profondément. Donc, mais le mot de frustration n'est pas le bon. Là.
Alors Michel Rocard, une réforme que nous avons oubliée, en partie, mais qui peut intéresser nos auditeurs, et sur laquelle j'aimerais bien que vous reveniez, c'est la réforme de l'orthographe. La dernière grande réforme de l'orthographe, au moment où vous aviez installé le Conseil supérieur de la langue française, elle vous revient. Pourquoi avez-vous été sur ce terrain-là? Pourquoi fallait-il réformer l'orthographe?
Il n'est pas dans la Constitution que le gouvernement s'occupe de ça. Il est même clair dans la Constitution que cette responsabilité est celle exclusive de l'Académie française, qui d'ailleurs a fait le boulot. C'est pas moi qui l'ai fait. En plus, je suis Premier ministre, nommé, observé, un peu surveillé quand même, par un président de la République qui est en plus un écrivain, qui compte dans ses amis proches 4 ou 5 académiciens français, qui est un grand lecteur, qui a une culture littéraire énorme. Pas beaucoup de culture économique et sociologique, nous sommes complémentaires, pas substituables, je n'ai pas sa culture littéraire et n'y prétends pas. J'avais donc toutes les raisons de me méfier. Mais, menace générale sur la survie de la langue française dans le monde. Une anecdote d'abord. qui m'arrive quand je suis ministre de l'Agriculture. Je fais un grand voyage en Chine au moment où commencent les mesures d'Eng Xiaoping, les quatre modernisations. Nous inventons, c'est rarissime avec la Chine, un accord nouveau qui va traiter de 17 spécialités, 17 champs de recherche scientifique ou d'échange de produits expérimentaux, peu importe. Je reviens et je me bats pour l'application de cet accord. La Chine est déjà à 800 millions d'habitants à l'époque, elle est à 1,3 milliard maintenant. Et bien entendu, échanger, c'est naturellement s'obliger à correspondre, donc parler la même langue. La République française payait 8 lecteurs de français en Chine, des agrégés de lettres et anciens élèves de l'école des chartes, ou normaliens. Je demande que l'un de ces 8 au moins soit dans l'avenir choisi parmi les vétérinaires, les agronomes, les horticulteurs, les biologistes de langue française. Refus, impossible. Deuxième élément, nous avons des difficultés de commerce extérieur. Or, dans ce qu'on échange, il y a de moins en moins de produits bruts ou simples, et de plus en plus de produits compliqués avec lesquels il faut des modes d'emploi. Les modes d'emploi atrocement rédigés en général, les autres sont en français, non vendables. Et le fait qu'ils soient traduits dans des conditions absurdes, très mal, est un handicap. J'ai peur de tout ça. Troisième chose la plus grave. Il est né avec l'informatique de nouvelles institutions. Immense. Il y en a 5 au monde au moment où je suis Premier ministre. Capable de stocker la totalité du savoir mondial. Des immenses bibliothèques informatisées, où tout le savoir mondial est rassemblé, coté, etc. Naturellement, à cause de la dominance du moment, qu'il s'agisse de fiction, de littérature, d'œuvres d'art, ou de travaux scientifiques, ou d'œuvres musicales, tout ça est stocké, inventorié et mis en table des matières en anglais. Et donc, pour faire enregistrer les produits de votre savoir ou les produits de votre création littéraire, il faut au moins que le sommaire, le résumé de l'ouvrage, soit en anglais. Et le mode de traduction, c'est la traduction automatique par ordinateur. Langue française. Nous avons 3000 mots, à l'époque, dont l'orthographe n'est pas la même dans tous les dictionnaires, notamment pour les accents. Nous n'avons pas de règles quand il s'invente des mots nouveaux. S'en invente une ou deux dizaines de milliers par an. La pharmacie est une haute créatrice, bien entendu. Fonctionnalisme. Vous mettez 2 N ou 1 seul N? Réponse, il n'y a pas de règles, vous faites ce que vous voulez. Ça varie selon les dictionnaires. La plupart des grandes langues, l'espagnol, l'allemand, le portugais même, sont à peu près complètement l'italien, phonétique. Traduction à l'ordinateur, automatique, c'est facile. Traduire par ordinateur en traduction automatique le français en anglais coûte 40 à 50% plus cher que n'importe quelle autre langue. Assez inouï, ça. Résultat, nos éditeurs veulent plus payer ça, la surcharge. Il y a désertion de la captation de la littérature française et du savoir écrit en français dans les institutions du savoir international. En 30 ans, le français aura disparu. Vous mélangez tout ça. Je ne suis pas écrivain, moi. Mais j'ai peur. Et pour des raisons, à la limite commerciales. Et en plus, géopolitiques. L'ampleur de la langue française. Et puis nous nous trompions. Nous oublions qu'apprendre le français à des étudiants étrangers, c'est terriblement difficile. Tous les grands scientifiques vous diront qu'ils ont plein de collègues, dans toutes les disciplines, l'espace déjà, mais la physique, la chimie, l'histoire aussi. Où l'importance pour eux de communiquer avec des savants, des porteurs de savoir français, fait que leurs interlocuteurs se mettent à parler le français. Ils n'osent jamais l'écrire de peur de faire des fautes.
Mais vous êtes d'accord, Michel Rocard, que la langue française ne se réduit pas non plus à l'orthographe?
Évidemment. L'orthographe, à la limite, n'a pas grand-chose à voir avec la langue orale. C'est autre chose. Et dans les cas dont je vous parle, l'orthographe est une complication inutile. C'est Paul Valéry qui a parlé de la criminelle orthographe. Le premier demandeur de réforme de l'orthographe s'appelle Ronsard. Tout du long, tous les très grands, Voltaire, Valéry à la fin, Zola et Beaumarchais, sont demandeurs d'une simplification de tous les très grands. Ceux qui s'accrochent à l'orthographe compliquée pourraient faire un territoire où leur savoir domine. C'est les médiocres, c'est les moyens. Et d'ailleurs, sous la Révolution, on en avait reparlé aussi. vous la voulez, l'histoire, vous l'aurez. Quand je suis nommé Premier ministre, la langue française est bien défendue, il y a des institutions. Il y a un Haut Conseil de la langue française, s'il vous plaît, et puis il y a un commissaire général à la langue française, en relation avec le Haut Conseil. Ce commissaire général est un neutron administratif, il est rattaché à rien. Il a une relation avec le Haut Conseil qui est une manière d'académie presque indépendante. Tout ça est extérieur au gouvernement. Le président de la République y a nommé des gens de sa confiance, qui faisaient du travail de bonne volonté, mais qui n'étaient pas des spécialistes et qui étaient même plutôt des amis. Au moment où l'histoire commence, décède mon vieux copain Roger Fajardi, qui était, je crois bien, président du Conseil supérieur de la langue française à l'époque, je crois.
Du Haut Conseil.
Oui, du Haut Conseil. C'est à ce moment-là que je saisis l'occasion de dire à François Mitterrand, « Monsieur le Président, il ne faut pas seulement le remplacer, il faut changer la structure. D'abord, notre combat pour la langue française est mal mené, j'ose. Nous occupons surtout de défendre l'offre en langue française et nous ne faisons rien pour développer la demande de langue française à l'étranger. C'est pas le même combat, c'est pas les mêmes outils. Il nous faut bien plus de profs, etc., etc. Je vous demande d'abord de réintégrer tout ça dans le travail du gouvernement. Plus de haut conseil, mais un conseil supérieur gouvernemental, dont le délégué général sera un fonctionnaire du gouvernement, prenant ses ordres auprès du Premier ministre. Et puis, ce nouveau conseil supérieur, on y fait entrer d'abord des chanteurs. Il y a eu Pierre Perret, il y a eu Pivot. Mais j'ai fait aussi des industriels, l'un très francophone, très attentif à notre langue, français. Il interdit donc qu'on parle anglais dans sa maison. Et l'autre, tout aussi francophile, citoyen français enthousiaste, qui avait décidé peu de jours avant que tout le travail interne à sa maison serait fait en anglais, parce qu'on était dans l'électronique, qu'on ne travaillait qu'avec le monde anglo-saxon pour 90% des exportations, pour 100% des communications sur de la recherche, qu'en anglais. Mais il a accepté de venir défendre la langue française, de dire le pourquoi, etc. À ce conseil supérieur, je lui demande de créer un département de l'orthographe. Et il le crée. Et nous revenons là-dessus. La dernière acte de l'Académie française sur la langue française, il remontait vers 1935 ou 6 ou 7, et il disait, l'Académie française, prenant conscience de ce que sa dernière décision concernant l'orthographe n'est pas passée dans l'usage et n'a eu aucun effet, donc nous la révoquons et nous confirmons que l'orthographe valide en France est celle retenue en 1905. Capitulation. Formidable. Et déjeuner à Matignon sur qu'est-ce qu'on peut faire à propos de tout ça. Puisque l'Académie française, qui est l'organe jeune et moderne là-dedans, contre les traditionnalistes, avait à trois ou quatre reprises fait, c'est au XVIIIe siècle qu'elle fait une réforme de l'orthographe qui change l'orthographe de 40% de nos mots. C'est à ce moment-là qu'on a remplacé les F par des PH dans tous les mots où il fallait souligner l'origine grecque. C'est comme ça, la drôlerie, c'est nénuphar. Parce que nénuphar est passé dans le coup, tout le monde s'est mis à l'écrire avec un PH, alors que nénuphar est un mot arabe et pas grec. Seul le grand Proust avait gardé le F. Donc il violait le dictionnaire de l'Académie. Notre idée, avec la commission d'orthographe au Conseil supérieur de la langue française, c'est de simplifier, rendre l'enseignement plus facile, rendre le français plus aisément traductible automatiquement, plus commercialisable, quoi. Voilà. Alors, il a fait ça, mais pour le soumettre à l'Académie française. Or, Maurice Dréon fut mon invité dans un déjeuner où on a parlé de tout ça. Et il connaissait toute cette histoire des réformes échouées. Et il nous dit, vous avez tous raison, je suis profondément sur cette ligne, ça ne passera jamais. La seule chance de succès que vous ayez serait éventuellement que si, de votre comité de réforme de l'orthographe, je prenais moi, en ma qualité de secrétaire perpétuel de l'Académie française, la présidence. Ah, qu'avait-il dit là, le voilà président. C'est lui qui a piloté la rectification. Nous avons récusé le mot de réforme. On n'a touché à rien de fondamental. Les rectifications sur les consonnes redoublées, sur l'accord des participations, sur quelques accentuations, c'est tout. 1500 mots quand même. Ces rectifications ne modifient rien à la langue. Elles ont été proposées à l'Académie par Maurice Dréon, Premier vote de l'Académie, unanime. C'est l'Académie qui décide. Les services administratifs n'ont pas le pouvoir et ne font que des propositions. Et puis, prise de conscience, éclatement de colère. Et la France furieuse se met à écrire n'importe quoi. Cavana, d'autres, Jean Dutour, écrivent des insultes. On voulait raviser la langue française, appauvrir notre civilisation, etc. Avec aucun rapport avec la réalité minime des rectifications demandées. Affreux. On se bat. 8 jours avant l'ouverture de la guerre du Koweït, le débarquement de forces françaises dans une force militaire, une guerre. 8 jours avant. Il faut 3 camions de CRS pour éviter qu'on se batte à l'entrée de l'Académie française. C'est complètement inouï. Absurde. On n'a jamais vu ça. L'Académie revote à 52%, ce qu'elle avait à l'unanimité, à voler 5 ou 6 jours avant, dans le sommeil de quelques académiciens, il faut bien le dire. Retour du travail en chantier, et finalement, après quelques légères modifications dans ses rectifications, l'Académie reprend le travail et finit par approuver l'ensemble, qui figure maintenant en complément dans les éditions actuelles du dictionnaire. Voilà cette histoire de la forme de l'orthographe. J'ai jamais rien fait d'aussi rigolo. J'ai jamais rien fait d'aussi violent. Enfin, si, là, le CSG, bon, c'est autre chose. Mais c'est pittoresque et c'est franco-français de manière absurde.
C'est pittoresque et en même temps, vous aviez la sensation qu'on voulait vous ridiculiser dans cette ambition-là. Est-ce que la presse n'en a pas un peu rajouté ?
Pas seulement la presse. Quand Jean Dutour ou Cavana ou quelques autres osent écrire n'importe quoi et déformer le projet pour le ridiculiser, il montre aussi une souffrance. La langue française, avec son orthographe absurde, était pour eux sacrée. Moi, j'ai fait une découverte sociologique. C'est sacré. C'est parce que c'est sacré qu'on ne peut plus y toucher. Et c'est parce qu'elle est immobile qu'elle dépérit.
François Mitterrand vous a encouragé dans cette réforme ?
Non. Non, non, il m'a plutôt découragé. Il s'est moqué de moi. Il m'a laissé faire. Il a dit un jour à quelques journalistes, il a affecté de ne pas comprendre les motifs. Et il a dit un jour, j'ai dû dans cette affaire sauver quelques accents. Sans solidarité avec le raisonnement.
Pour en terminer avec cette gouvernance à Matignon, dans quel état d'esprit vous êtes parti, vous avez quitté l'hôtel Matignon lors de votre démission forcée ? En partant du principe que vous alliez reconquérir la gauche, le Parti socialiste, revisiter la question de l'Europe, dans quel état d'esprit vous êtes parti ?
Je suis d'abord parti éreinté. Ce sont des métiers où la semaine de travail est de 90-95 heures quand même. Il n'y a ni soirée ni week-end. Je suis aussi parti soulagé. Quand je suis parti, il y avait encore 2 ans à courir avant les élections suivantes, législatives. Il était déjà immanquable qu'on les perde. La très glorieuse nomination de mon successeur, Madame Edith Cresson, dont j'ai découvert le nom et la nomination par les informations du bulletin de midi. Le président ne s'est pas chargé de me l'annoncer. Ne m'avait pas absolument convaincu de la force de réponse à la menace politique électorale sur le courant. Je pars avec l'idée qu'on va être vaincu et que cet épisode de la gauche au pouvoir prendra sa fin avec la fin du mandat du président. C'est peut-être dommage, mais on ne fait pas le monde à ce moment-là. Alors en plus, il y a une secousse. Hein. Le travail est tel à Matignon que vous avez le temps de rien faire. Même pas d'aller acheter, je fumais encore à l'époque, vos propres cigarettes, ni vos vêtements, ni rien. Un jour, j'ai découvert que j'avais un trou dans une de mes chaussures. Pas possible, bon. Mais vous n'avez pas le temps, bon, etc. Le lendemain, 3 fournisseurs me venaient me proposer 10 modèles. C'est ça, Matignon. Quand vous prenez l'avion pour aller quelque part, vous avez entre les techniciens des transmissions, un maître d'hôtel, un valet de chambre, un cuistot, 30 journalistes, 10 ou 12 collaborateurs, 70 ou 80 personnes pour tout voyage. C'est comme ça. Vous êtes en avion. Ça dure une nuit. À l'arrivée, tout le monde va aller se coucher une nuit, sauf le Premier ministre. Dès la descente, de la tribune, les caméras sont là, il faut être pimpant, beau, frais, faire semblant d'avoir dormi, être en forme. Donc, il y a un lit particulier pour le premier, tout le monde comprend pourquoi. C'est pas un privilège, c'est une commodité. Et un maître d'hôtel qui me prépare ma tenue dès l'avion pour que je m'habille, etc., etc. Et puis, pof, une nuit, tout s'arrête. Vous n'avez plus de bureau. Le lendemain matin, je savais pas où aller. J'avais plus de secrétaire. Ni de bureau. Il me restait ma fonction de maire. Conflans-Sainte-Honorine. Mais je savais que mon bureau de maire avait été plus ou moins confisqué par mon maire adjoint qui servait de maire, qui était mon collaborateur à Matignon, mais qui, lui, avait pu exercer les fonctions et avait pris le bureau.
Jean-Paul Huchon, pour ne pas le nommer.
Jean-Paul Huchon, pour le nommer tout à fait, nous avions une grande confiance, nous étions très soudés. Bref, je me réfugie à Conflans-Sainte-Honorine, je trouve une secrétaire non habituée à mon travail, et peu importe. Et le téléphone ne sonne plus. C'est assez effrayant. C'est deux jours après qu'un vieil ami à moi vient me dire « Michel, il ne faut pas rester comme ça, c'est de la folie. Je possède, l'homme était à l'aise, un bateau avec un équipage. Fiche le camp, va te reposer. » Et je pars 3 semaines en bateau, faire le tour de la Méditerranée occidentale par les îles. Et j'emmène une librairie, et j'emmène notamment l'Odyssée, que j'avais jamais lu. Et croyez-moi, si vous voulez, on a parfait le monde. Je me suis ressourcé. J'ai rattrapé des lectures en retard, 12 ou 15 livres en 15 jours. Voilà mon après-Matignon.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Michel Rocard, enregistrée en 2013. À voix nue. Réalisation Manouchak Fachaï, Céline Terce. Prise de son Frédéric Kérou. Attaché d'émission Claire Poinsignon. Coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.